France Inter. Le masque et la plume. Cinq livres et autant de coups de cœur au sommaire de l'épisode du jour qui réunit sur scène Elisabeth Philippe du Nouvel Obs, Arnaud Vivian de la revue Regard et pilote de l'émission littéraire en ligne Tirelire, Jean-Marc Proust, plume de Slate, et Patricia Martin, que vous pouvez aussi écouter dans leur philo sur Inter. Aujourd'hui, nous parlerons d'un western métaphysique signé Alessandro Barrico, d'une éducation à l'intérieur et à l'extérieur du collège Stanislas avec le roman de Simon Liberté, de l'autrice québécoise Nelly Arcan grâce au nouveau livre de Joanne Rigoulot. Et ce sommaire compte aussi le Festival de Cannes selon Santiago Amigorena et le roman historique de Victoria Mas. Bonjour, bienvenue, c'est Le Masque et ses plumes. L'essentiel de votre courrier depuis le dernier masque dédié au livre concerne le débat qui eut lieu autour de Grand Amour, roman autobiographique d'Eva Ionesco, où elle raconte sa jeunesse parisienne d'enfant livrée à elle-même, ses placements à la DAS, ses virées dans la nuit, et ce grand amour avec Charles, âgé de 15 ans plus qu'elle. Elle avait 13 ans, il en avait 28. Je ne peux pas lire tous les messages reçus, et espère avoir sélectionné les plus représentatifs, dont celui de Lola, qui m'écrit ceci sur Instagram. Avant même de vous écouter, j'ai lu plusieurs critiques de Grand Amour dans la presse qui qualifiaient le livre d'Eva Ionesco de « ouvrez les guillemets » à contre-courant. Il a finalement fallu que j'entende Jean-Marc Proust au masque, le seul de votre tribune, pour éclairer cette expression sibylline. Ce « à contre-courant », écrit à longueur de papier, signifie ici une histoire d'amour entre une enfant de 13 ans et un pédocriminel. Qu'Eva Ionesco écrive que cet amour l'ait sauvé est son droit le plus total, sa liberté d'autrice. Je la considère par ailleurs comme une grande écrivaine. Mais il en va de notre et de votre responsabilité de dire les faits. Relisez le consentement de Vanessa Springora, conclut Lola. Cédric Le Bodic, quant à lui, conseille la lecture du code pénal et poursuit « Du point de vue du droit, le personnage de Charles, 28 ans, ne se distingue pas de Gabriel Matzneff. Le dire ne revient pas à parler à la place d'Eva Ionesco, mais à considérer que le droit s'applique à tous. » Elisabeth, est-ce que tu souhaites apporter une réponse à ces courriers ?
Oui, ben je comprends parfaitement l'émoi des auditeurs et des auditrices, les courriers que tu as cités, Rebecca, et puis ce qu'a dit Jean-Marc pendant l'émission, notamment sur le consentement. Tout cela est absolument incontestable et je pense que c'est important de le rappeler, de le marteler, il n'y a aucun débat possible. Et si l'on est aujourd'hui capable de porter ce regard, d'avoir cette vigilance, c'est en grande partie grâce à la littérature, grâce aux livres de Vanessa Springora, de Neige Sino, de Camille Kouchner et d'Eva Ionesco elle-même, aussi bien dans ses films que dans ses livres, et notamment dans Innocence, elle n'a cessé de raconter sans le moindre détour l'abus dont elle a été victime, la façon dont sa mère a exploité son image, l'a livrée à des hommes, à des pédocriminels, ça elle l'a dit à longueur de livre, y compris dans Grand Amour. D'ailleurs, il ne me semble pas qu'on ait jamais dit à cette tribune qu'il s'agissait d'un livre à contre-courant pour en vanter les mérites. Et il y a des pages absolument déchirantes, sinistres, sordides dans Grand Amour aussi, et là on est très très loin de la glamourisation de la pédocriminalité. Et donc faire ce procès à Eva Ionesco, je pense que c'est en partie nier sa parole d'autrice, nier sa voix et nier son récit et les 400 pages qu'elle a écrites.
Parmi les autres livres qui vous font écrire au masque figurent La nuit ravagée de Jean-Baptiste Delamo. Florent Fossat explique par exemple ne pas être amateur de littérature horrifique, mais il cite ce qui fut dit à ce micro, l'horreur va très bien au teint de Jean-Baptiste Delamo. Enfin, par le biais d'Insta, Marc revient sur La fugue d'Aurélie Valogne. C'est merveilleux que les livres lus par le plus grand nombre ne soient pas exclus d'un débat critique éclairant et sans mépris. Et là, il y a un grand blanc dans le message, comme si les dernières phrases étaient dites à voix basse. Le problème, c'est que ma mère vous écoute et qu'elle m'a offert le bouquin. En le lisant, elle a découvert Patti Smith et moi, j'ai enfin trouvé une bonne cale pour mon établi. On commence avec Abel, de l'italien Alessandro Barrico, qui s'est fait connaître il y a longtemps pour le Médicis étranger attribué au Château de la Colère. Depuis son roman La jeune épouse, Barrico n'avait pas publié depuis 9 ans et le voici de retour donc avec un western situé dans un Far West imaginaire. Le récit ne suit pas de chronologie, il s'agit plutôt d'une fresque composite dont les pièces s'assemblent petit à petit, ou pas. Ce sont les souvenirs, réflexions et visions d'Abel Crowe, pistolero de génie, au prénom biblique et philosophe. Trois femmes au moins vont changer la vie de cet homme, sa mère incestueuse, sa femme, mi-blanche, mi-indienne, et sa petite sœur, qui prédit l'avenir. Montou est donc un western à nul autre pareil, qui revisite quelques motifs classiques du genre, comme une mission de sauvetage ou un braquage de banque. Patricia.
Alors, il tire tous azimuts, hein, avec deux pistolets en même temps, ce qui n'est pas, à mon sens, j'ai jamais tiré même avec un seul pistolet, mais c'est pas une mince affaire. Et il tire au sens propre, vous me pardonnerez, parce que nous sommes dans une émission fort sérieuse, et nous sommes sur France Inter,
oui.
Mais il tire au sens propre comme au sens figuré, parce que on va dire qu'il y a beaucoup de... Ça baisse beaucoup, quand même, hein, dans ce livre, et c'est, mais de façon, je dirais, très jolie. Tu as raison de dire que c'est une fresque composite, parce que on sait pas, à certains moments, si on est dans un roman dans un conte, sont des textes très, c'est onirique un peu aussi, sont des textes très courts, pour raconter au fond ce qui tient plus de la conquête de soi que de la conquête
de l'Ouest,
des contours d'un territoire. Je voudrais faire quand même une parenthèse sur lui, tu as dit qu'il n'avait pas publié depuis longtemps, c'est un homme qui a été très malade, il a eu une leucémie, Barigaud, il ne s'en est pas caché, il l'a dit, et je pense qu'on ne peut plus considérer la vie de la même manière une fois qu'on a frôlé la mort. C'est probablement son cas, et la mort, là, elle est partout. Mais le petit espoir, c'est qu'elle est plus provisoire que définitive, et c'est elle, finalement, qui permet de naître à soi. Et puis moi, j'ai aimé son pied de nez au philosophe, parce qu'on est plus dans la chose que dans le concept. Et dans la chose, il y a des très belles choses. Il y a le galop d'un cheval, il y a un paysage, il y a les femmes, il y a les bruits des balles, il y a l'instant, la valeur de l'instant.
Arnaud, avant qu'il ne s'endorme.
Mais quelle géniale critique tu es, José. Arriver à sortir tout
ça...
Ça
veut dire que t'as pas aimé, va tout de suite au but.
J'ai toujours pensé que ce Barigaud était un faiseur. Mais dès le départ. Hein. Et là, quand je lis ça... Parce que vous voyez, le truc western métaphysique, mais j'en ai lu plein, des westerns métaphysiques.
Mais pas celui-là.
Et bien meilleur que ça. Richard Brautigan, immense écrivain des années 70, hippie de l'Amérique, a travaillé sur ces détournements de genre du western, du polar, pour en faire des livres effectivement pas métaphysiques,
le problème, Arnaud, c'est que
poétiques.
Tu lis trop, tu es trop cultivé. Et tu n'as pas ma naïveté.
Eh bien, écoute, je, vraiment, c'est, le problème, c'est qu'on en est arrivé là, à cette accusation. Que quelqu'un soit trop cultivé.
Mais arrête,
On en
toi
est là aujourd'hui, quoi.
It was a joke. Je te taquine.
Quand même, je suis moins cultivé que ChatGPT. D'accord.
Ça se c'était du second degré, voilà.
Arnaud, termine.
Non, bon, Richard Brautigan a déjà fait ça, mais c'était drôle. Là, c'est pesant.
Exactement, il y avait de l'humour chez Brautigan.
Oui, mélange tout. La Bible, Platon, les philosophes des Lumières, et que je te mélange tout ça, et puis la pensée amérindienne. Et c'est n'importe quoi à l'arrivée. Et franchement, c'est illisible, ça vous tombe des mains. C'est impossible. Allez-y, faites l'expérience.
Eh bien, on attend la réaction des auditeurs.
Elisabeth.
Ben, j'essaie de ne pas prendre une balle perdue dans le duel entre les deux pistoleros du masque. Je suis un peu entre les deux, pour le coup.
Tu es casque bleu.
Exactement. On a l'impression de traverser des grandes plaines arides, parce que c'est un style quand même assez dépouillé, une écriture assez sèche, abstraite, puisqu'il y a cette dimension métaphysique, énormément de références bibliques, mais aussi à la mythologie antique. À un moment, quand le père d'Abel tire un coup de pistolet pour délimiter le périmètre sur lequel ils font s'installer, moi, je pensais tout de suite à Romulus qui trace le sillon sacré pour délimiter le périmètre de Rome. Évidemment, le personnage, tu l'as dit, Patricia, s'appelle Abel, sa sœur s'appelle Lilith, donc tout ça est assez
et affirmé. Sa femme, Alléluia.
Et sa femme, Alléluia, donc on voit bien où on se situe. Et au début, je ne comprenais absolument pas ce mélange des genres, ces ruptures de ton et ces différences de registres avec ce type qui tire à tout va et en même temps...
J'ai mis beaucoup de temps à comprendre aussi, pour ma part.
Pourquoi il cite Spinoza ? Enfin, on ne comprend pas trop. Et il y a un moment, il y a un des chapitres, donc un chapitre très court, puisque tout ça se lit dans le désordre, où l'on comprend d'où ça lui vient. Donc c'est son fameux maître qui l'a rencontré, qui lui a appris à tirer en contrepartie.
Alors, un peu dans Kung Fu, un peu.
Exactement.
Moi aussi, j'ai complètement pensé à du Kung Fu,
un film de Kung Fu.
Complètement.
Les sentences délivrées.
C'est un faiseur, je vous ai dit, c'est un faiseur.
Alors,
Les sentences délivrées au petit scarabée que fut David Carradine.
C'est, il y a quelque chose de ça. C'est complètement ça, ouais, ouais. Il y a un peu de ça. Ouais. Pour autant, je trouve qu'il y a certaines scènes qui sont assez belles, mais au bout du compte, toutes ces images qui s'offrent à nous un peu comme des visions chamaniques, on a vraiment l'impression que c'est Abel qui voit sa vie défiler et dans le désordre. Bah, il nous en reste pas grand-chose. C'est un peu comme du sable qui nous glisse entre les doigts. Moi, j'ai pas retenu grand-chose de ce western métaphysique.
Et toi, Jean-Marc ?
Ok.
Bon, tu as le verbe bref aujourd'hui.
Je vais vous départager. Moi, je suis plutôt Team Patricia. Je pense que c'est vraiment un livre de cinéphile. C'est-à-dire que moi, j'ai vu tous les westerns, du classique hollywoodien
au western. C'est pas un peu présomptueux, ça, quand même. Tous les westerns, il y en a beaucoup. Non,
tu es trop cultivé, tu es trop cinéphile.
Je suis trop cultivé en western, mais j'ai vu vraiment toutes les figures du western. Hein. Les figures archétypales sont toutes là. Il y a la pendaison, il y a le juge...
Le braquage de banque.
Il y a le braquage de banque, il y a la famille totalement destroyée.
Le braquage de banque est pas mal.
La pendaison.
Là où il y a le tir croisé dont parlait Patricia, dont tu as fait une analyse métaphysique, mais alors extraordinaire.
La pendaison de la mer, enfin, elle est extraordinaire.
Oui, non, la pendaison de la mer, elle est racontée comme un film de Peckinpah. C'est-à-dire qu'il y a des accélérations, des ralentis, des plans larges, des plans serrés. Et à tout instant, dans ce bouquin, vous avez des figures du western. Vous allez retrouver les grands classiques, les western spaghetti. Généralement, quand un Italien s'attaque au western, j'ai très peur, parce que c'est pour le démolir.
Comment
là,
ça
il en fait quelque chose de bien. Ben oui, je n'aime pas trop le western spaghetti. Nul n'est parfait.
Mais effectivement. Comment tu peux aimer le western, ne pas aimer
parce que je suis trop cultivé.
Non, mais on est dans une émission littéraire et pas fait dans une émission de cinéma.
Je pense que le type a vu des quantités de films et vous avez tout ça dans son livre. Et pour moi, la figure de la philosophie, elle est intéressante dans ce livre parce qu'il amène une réflexion par rapport à ce qu'est son personnage et à ce qu'est le western qu'on n'aurait pas sinon.
De la série Kung Fu ou à Sam Peckinpah.
Juste un mot, oui. Si je devais caractériser ce livre, il est tellement érudit, c'est Lucky Luke à la Sorbonne.
J'ai bien fait de te laisser conclure. Abel d'Alessandro Baricco est traduit de l'italien par Lise Kaya et publié chez Gallimard dans la collection du monde entier. On va parler maintenant du nouveau livre de Santiago Amigorena, Le Festival de Cannes ou Le Temps perdu. Il s'agit de l'avant-dernier volume d'un vaste projet littéraire autobiographique commencé au début des années 90. Cette fois, c'est par le prisme de 40 ans de festival que Santiago Amigorena relie sa vie d'écrivain dont Cannes le détourne, sa vie de scénariste et de réalisateur qui, selon ses succès, change son statut de festivalier, passé du scooter à la limousine ou de palace à une chambre de bonne. Le Festival de Cannes ou Le Temps perdu, c'est aussi la vie amoureuse de l'auteur, avec des femmes liées au cinéma, Philippine, Julie, Juliette et aujourd'hui Marion, le tout écrit avec une certaine solennité, faite d'imparfait du subjonctif et d'interjection au lecteur. Alors, oh, lectrice Elisabeth, qu'en as-tu pensé ?
Alors, à première vue, on pourrait se dire que ce roman, c'est un peu un magazine People écrit au passé simple, puisqu'on croise évidemment...
Et à l'imparfait du subjonctif.
Et à l'imparfait du subjonctif, et parfois des imparfaits du subjonctif et des passés simples un peu fantaisistes, puisqu'on croise donc, tu l'as dit, Julie Gayet, Juliette Binoche, Cédric Clapiche et beaucoup d'autres, donc ces êtres magnifiques en papier glacé, comme l'écrit Santiago Amigorena. D'ailleurs, lui-même anticipe ce reproche-là qu'on pourrait lui faire, de tenir un peu une rubrique mondaine en écrivant « Peut-on écrire le nom célèbre de nos jours sans faire résonner chez le lecteur l'écho volage de Voici, Gala ou Paris Match ?» Eh bien, la réponse est oui. Moi, je trouve qu'il arrive parfaitement à éviter cet écueil. D'une part, parce qu'il ne se prend pas au sérieux, Santiago Amigorena, il y a quand même beaucoup... Alors, Patricia fait des grands yeux, je vous le dis, parce qu'on a à la radio ce que Patricia semble avoir oublié. Mais,
Moi aussi, je fais des grands yeux.
Toi aussi, tu as fait des grands yeux ? J'ai pas vu. Il y a beaucoup d'autodérision dans ce texte. Je veux dire, il n'hésite pas à se qualifier de crapaud graphomane, à lui-même pointer sa vanité, sa prétention. Donc, je trouve que ça le rend quand même assez sympathique. Il est conscient de sa vanité, du moins j'ose le croire. Et ce qu'il faut dire, c'est que Santiago Amigorena, il se prend pour Proust, mais il le dit vraiment. Et tout comme Proust avait été qualifié d'écrivain mondain, Santiago Amigorena est aussi un écrivain mondain, mais il en fait quelque chose, il en fait de la littérature.
Et je défendrai l'honneur des Proust tout à l'heure.
Ah oui, très bien. Comme Proust et comme son narrateur souhaitait intégrer la société aristocratique et la société des guermantes, eh bien lui, Santiago Amigorena, au Festival de Cannes, il souhaite grimper les échelons de la la hiérarchie cannoise, et c'est ce qu'il va faire en 30-40 ans, en passant d'appartements sordides à des palaces, au fur et à mesure, il va avoir des smokings de plus en plus chics et élégants. Bon, tout ça, ça pourrait paraître très anecdotique.
Jusqu'à très récemment, d'ailleurs.
Jusqu'à très récemment, puisqu'il a, il a co-signé le scénario, je crois, du dernier film de Cédric Clapiche.
Absolument,
et donc
oui.
Il a monté les marches. Mais il y a une vraie langue, et il y a une réflexion, effectivement, sur le temps qui passe. C'est une réflexion sur son propre vieillissement, mais aussi sur l'évolution du cinéma, quand même, c'est 40 ans de cinéma. Il montre comment la finance a pris une place de plus en plus importante dans ce festival de Cannes. Et il y a une scène, à un moment, qui rappelle le bal de tête du temps retrouvé chez Proust, où c'est à la fin, évidemment, il retrouve des gens qu'il ne reconnaît pas, notamment énormément de femmes qui ont le visage un peu métamorphosé par des liftings. Et là, on est complètement dans la recherche du temps perdu.
Je donne donc la parole à celui qui a le même nom que l'auteur qui hante ses pages, Proust, Jean-Marc.
Oui, enfin, je suis embêté pour lui parce qu'il parle de Proust, mais je pense qu'il joue vraiment pas dans la même catégorie. Et ça m'a gêné, cette référence permanente à Proust, et puis cette idée de « je veux faire de la littérature, regardez-moi, je fais de la littérature ». Je pense qu'il nous transforme vraiment en lecteur de Press People, à un moment donné. C'est-à-dire que le principal intérêt de son livre, c'est ce qui se passe avec Julie Gayet, Juliette Binoche. Et surtout, je lui en veux parce que, d'une certaine manière, il a toute la matière pour faire de la littérature. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ces différents festivals de Cannes, il rencontre des quantités de personnages dont il pourrait faire des livres. Il y a un personnage que je trouve formidable. Il est à une fête cannoise, il le reconnaît vaguement. Le type lui dit « je suis un pique-assiette ». Et m'avait vu sur un film parce que je fais de la figuration. Et donc je pense que ce film est figurant de sa vie en permanence. Il faut raconter son histoire et pas lui consacrer juste trois lignes en concluant par « je ne l'avais pas reconnu ».
C'est un peu injuste parce qu'il y a beaucoup d'autres personnages à qui il donne chair et vie. Je pense le scénariste un peu raté à qui il promet une collaboration et puis finalement qu'il oublie. Ce compagnon aussi de festival, bon, c'est pas très élégant, mais qui sent très mauvais des pieds et qui revient comme un running gag. Il y a des figurants qui ont un peu de consistance.
Et qui donc refusent d'enlever ses chaussures.
Il veut faire de la littérature, il le dit. Regardez-moi, je fais de la littérature. Je pense que c'est ça son principal problème. Il n'y arrive pas encore, peut-être qu'il y arrivera.
Enfin, puis, il n'y en est pas son premier roman, là.
Quand tu parles d'autodérision, enfin, moi, j'ai vu quand même beaucoup d'autosatisfaction. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'autodérision qu'au bout d'un moment, on sent quand même qu'elle est très travaillée.
Je vais vous traduire en son l'expression de Patricia Martin qui était « Oh là là !»
Oui, non, mais pour moi, c'est incompréhensible quand même que cet homme qui a écrit quand même notamment, enfin, qui a écrit le ghetto
intérieur,
très très beau livre, comment est-ce qu'il a pu se perdre dans de pareils méandres? Parfois, je suis désolée, mais c'est gênant, son histoire de pied qui pue, enfin bon, pardon, non. Ça m'a peut-être échappé s'il en a parlé deux fois, parce que la fois à laquelle je pense, ça se passe à Rome, ça se passe pas à Cannes, où c'est très embêtant parce qu'il y a des chaussures qui, déjà, si vous avez les pieds qui puent, et en plus, si vous avez des chaussures qui n'absorbent pas bien la puanteur, ça pue encore deux fois plus, d'accord ?
Là, on est dans la pharmacie, finalement.
Non, mais Julie Gayet, alors Julie, évidemment, elle dit pas Gayet, qui, à un moment donné, a une envie pressante, elle n'en peut plus, elle attend le ministre de la Culture de l'époque, et elle va faire pipi entre deux voitures. Oui, d'accord, bah, moi, si j'étais elle, je serais pas très contente qu'on raconte ça, ça n'a strictement aucun intérêt. Il tente de se mettre le lecteur dans la poche à plusieurs reprises en disant « ami lecteur », mais ça
c'est
suffit pas.
C'est
très vaniteux. Ça suffit ouais, absolument
il ajoute,
pas.
Il ajoute « ennemi lecteur » aussi. Hein.
Ouais,
il dit « ami lecteur,
si
lecteur ennemi ».
Il se perd dans des digressions. Et alors, il n'arrête pas de dire « je m'égare ». Enfin, je trouve que c'est dévitalisé, ce livre. C'est un très bon somnifère. Il y a un moment, moi, où je me suis réveillée. Alors ça, c'était plutôt rigolo. Il parle de Jean-Luc Godard, non pas à Cannes, mais qui était en tout cas interviewé, qu'il voit en arrivant à Cannes, interviewé par un journaliste à la télévision. Et Godard parle d'un mystérieux réalisateur qui en est à son deuxième film, qui est présenté à Cannes. Et voici ce que dit Godard. « Vous voyez, c'est comme ce garçon-là, derrière sa caméra. Il croit que c'est lui qui filme, mais c'est Sony. » Bon, là, j'ai souri, mais c'est à peu près la seule fois.
Est-ce que tu as trouvé que c'était un roman pour Happy Few, toi, Arnaud ?
La première nuit d'amour entre l'auteur et Julie Gayet, où ils sont donc, se croisent à une fête à Cannes. Ils vont dans l'hôtel chic de Julie Gayet, qui doit être le Martinez dans mon souvenir. Ils commandent des préservatifs au room service. Avouez que c'est chic. Hein ? On voit que là, on voyait que des gens qui vivent dans un monde auquel, moi personnellement, vous voyez, je vais pas rentrer dans le détail. Enfin, demander
Merci.
Des préservatifs.
Merci,
au
c'est
service,
charitable.
J'ai trouvé ça, mais alors chicissime. Chicissime.
Mais est-ce que c'est un livre, selon toi, pour ceux qui s'intéressent à la littérature ?
à la littérature. On voit bien que Santiago Amiruena, il s'en cache évidemment pas, et je suis assez d'accord qu'il a de l'ironie sur lui-même par rapport à ce fait qu'il est atteint de ce que j'appellerais le symptôme de Proust, hein, et on va voir Liberati tout à l'heure, même chose, hein, atteint du symptôme de Proust. Et le malheur, je ne dis pas ça pour toi Jean-Marc, que Proust est en train de faire à la littérature française contemporaine est important.
Le Festival de Cannes ou Le Temps perdu de Santiago Amigorena est publié chez POL. On continue avec L'orpheline du temple de Victoria Mas, qui connut le succès avec son premier roman, Le bal des folles, prix Renaudot des lycéens, adapté au cinéma par Mélanie Laurent. L'orpheline du temple est un roman épistolaire. Il réunit les lettres qu'un certain Joseph Herbelin adressa à sa tante entre 1795 et 1820. Ce personnage de Joseph Herbelin est fictif. Victoria Mas en fait témoin d'événements réels, comme la prise du palais des Tuileries, mais surtout, Joseph est geôlier à la tour du temple, là où sont emprisonnés les membres de la famille royale, dont Marie-Thérèse de France, fille aînée de Louis XVI et de Marie-Antoinette. À travers les lettres de Joseph, on suit le déroulement de faits historiques, la résistance de Marie-Thérèse de France à des conditions de détention atroces, et le tiraillement d'un homme entre ses convictions républicaines et l'amour qu'il porte à la princesse. Amour qui le hantera toute sa vie. Est-ce que l'amour t'a hanté à la lecture de ce livre, Jean-Marc ?
C'est pas un roman très très intéressant, c'est pas brillant non plus, mais je crois qu'il faut se demander d'où vient ce roman. Pour moi, il appartient à la littérature contre-révolutionnaire, qui est à peu près aussi ancienne que la Révolution elle-même, et qui repose sur une figure assez simple, c'est la construction du martyr. Et on a beaucoup de variations autour de ce thème, ça marche plutôt pas mal dans certains cas. Je pense par exemple aux aventures du Mouron Rouge de la baronne d'Orxy. Plus près de nous, on a les dialogues de Carmélite de Bernanos, l'opéra qu'on a tiré Poulenc, un véritable chef-d'œuvre. Donc on a parfois de très belles réussites là-dedans. Mais je pense que pour ça, il faut qu'il y ait de la matière. Or, à mon avis, dans ce roman, il y en a peu. L'histoire est assez mince. Et j'ai trouvé que la forme épistolaire était assez paresseuse. Mais il y a quelque chose que je voudrais sauver dans ce livre, c'est le passé simple à la première personne du pluriel. Il y en a plein. C'est formidable.
Et ça t'a ravi.
Et moi, ça m'a ravi.
Aujourd'hui, le passé simple ne t'a pas ravi chez Amigorena. Alors là, je ne comprends pas.
À la première personne du pluriel.
Pardon.
C'est ça la nuance.
Vois-tu la tête.
Parce qu'aujourd'hui, tu vas avec tes copains sur une appli de course et tu dis on a couru. Alors que nous courûmes, ça a une autre allure.
Ça change tout.
Ça change tout. Moi, ce petit plaisir coupable, je l'ai trouvé dans la conjugaison. Je vous en lis quelques-uns.
Quel vicieux.
Nous contournâmes, nous marchâmes. Plus personne ne dit ça aujourd'hui, c'est formidable. Nous traversâmes les allées d'arbres fruitiers.
Il va nous faire le bécherel.
Humâmes leurs parfums amers et sucrés. Admirâmes leurs guirlandes de pommes et de poires prêtes à être cueillies. Moi, je sauverai ce livre pour cet imparfait, pour ce passé simple.
Zéro pointé, Jean-Marc.
La première personne du pluriel qui m'a procuré mon petit plaisir coupable. En revanche, c'est un roman contre-révolutionnaire. Dans le communiqué de presse, son éditeur dit que ces deux romans l'ont installé dans la littérature française contemporaine. L'orpheline du temple est son troisième roman, elle vit à Versailles. Je pense que c'est Versailles qui vit en elle.
Patricia.
Moi, j'ai lu ce livre avec beaucoup de plaisir. S'il y a une image qui me reste, ce sera celle du tricot, parce que comme elle a très très peu de laine, Marie-Thérèse, elle fait et elle défait et elle refait sans fin.
Alors, on en a au passé simple à la première personne et le tricot. Donc.
Ce qui marque sa grande détresse et qui est aussi une forme de folie. Elle est très douée, Victoria Mas, je trouve, parce qu'elle l'a déjà fait précédemment, pour appréhender ce genre d'état, une sorte en fait, d'état second, quand, pour une raison ou pour une autre, on vous isole et vous êtes complètement coupé de vos semblables. Cette vie imposée, le silence aussi qui est le sien, parce que, en fait, personne ne lui parle vraiment, personne ne lui raconte ce qui se passe, elle ne sait pas ce que sont devenus ses parents. Et elle-même, du coup, comme un enfant à qui on ne parle pas, mais un tout petit, là, elle est plus, elle sait déjà parler, évidemment, mais elle se coupe des autres en ne parlant pas non plus. Ça, je trouve que c'est assez fort. Et tout ça aurait pu parfaitement avoir raison d'elle. Alors, qu'est-ce qui l'a sauvée ? Est-ce que c'est cette gouvernante des enfants de France, Madame de Tourzel, qui va la visiter ? Est-ce que c'est les poèmes qu'elle a écrits ? Est-ce que c'est le regard de Joseph ? Est-ce que c'est pas tout simplement aussi sa propre volonté, sa puissance formidable. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est l'hyper-réalisme de la narration pour raconter, effectivement, un roman contre-révolutionnaire.
Et la résistance de cette fameuse...
Et la résistance de cette femme.
Marie-Thérèse de France. Est-ce que tu as été ému par et le passé simple et le tricot, toi, Arnaud ?
Bon, c'est un roman assez court, mais à chacune des pages, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Philippe de Villiers. Je me disais, mais c'est un roman d'amour pour Philippe de Villiers,
totalement.
En fait. Alors,
et Stéphane Bern.
Il a le droit d'aimer.
Bien sûr, mais simplement, moi, je veux dire, de penser à lui, c'est pas le truc que je préfère au monde. Hein, lire tout cas, un livre en pensant à Philippe de Villiers, c'est une espèce de petit cauchemar pour moi que je vis en réel. Car il s'agit bien effectivement d'un roman contre-révolutionnaire, qui était quasiment gentil. Hein.
Réac.
Soyons clairs, contre-révolutionnaire ne veut dire qu'une seule chose. Ne veut dire que anti-républicain. Tout simplement, ça peut exister. Ça ne me dérange pas que ça existe, mais il faut le dire tel qu'il est. Et dire qu'il est effectivement assez faible et pas très bon. Comment dire ? C'est en train de rentrer dans la culture populaire l'idée de mettre dans la tête des gens une culpabilité par rapport à la Révolution française. Ça rentre dans la rengaine, hein, dans la romance populaire. Parce que c'est ça,
mais non, mais ça a été toujours le cas, Arnaud. Voilà. Arnaud, oui, ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu de la littérature contre-révolutionnaire.
La République est sans cesse menacée, elle a toujours été. Eh bien, il faut
enfin, Victor Hugo, qui n'était pas vraiment anti-républicain, excuse-moi, il a quand même dit du comité de salut public, des fauves sur une montagne, des reptiles dans un marais.
Oui, mais il avait un autre talent quand même, Victor Hugo. Parce que là, franchement...
C'était des livres plus nuancés, comme celui de Balzac.
Il était monarchiste, il était jeune. Et il s'en est excusé plus tard.
Bah oui.
Parlons de Victoria Mas et de son Orpheline du Temple pour terminer avec toi, Elisabeth. Merci. Bah,
si on était chez un brocanteur, je dirais que c'est du faux Louis XVI. C'est à peu près aussi moche et disgracieux. L'écriture est plate, la construction complètement artificielle, la forme épistolaire n'est absolument pas justifiée. On dirait qu'il envoie des textos, le mec, il raconte ses souvenirs, il raconte par petites lettres.
À la fin du XVIIIe.
Oui, c'est complètement absurde. Donc voilà. La narration est hyper maladroite, à tel point qu'elle est obligée de mettre des notes de bas de page quasiment à chaque page parce qu'elle ne sait pas insérer les faits historiques dans son histoire, donc c'est ni fait ni à faire. Et puis sur le fond, je rejoins complètement Arnaud, on est complètement entre Stéphane Bern et le Puy du Fou. C'est totalement manichéen. C'est d'un côté les contre-révolutionnaires assoiffés de sang hyper cruel. Je ne nie pas évidemment la terreur et la période sanguinaire que ça a été, mais là c'est tellement manichéen. Et en face, Marie-Thérèse, ce petit ange au visage éthéré, non mais c'est absurde. Quand elle décrit, décrit Louis-Charles de France et Marie-Thérèse, enfin à côté. Cosette et Gavroche décrits par Victor Hugo, c'est les Kardashians.
Et je rajoute que toute l'idéologie du livre tient dans l'épilogue que je vous laisse découvrir, mais vous découvrirez quelque chose de tout à fait étonnant et qui explique bien l'idéologie un peu glaçante et biologique de ce livre.
L'Orpheline du Temple de Victoria Mas a paru chez Albin Michel. On passe à La vie continuée de Nelly Arcand, titre du cinquième roman de Joanne Rigoulot. Pour rappel, Nelly Arcand est une autrice québécoise qui s'est fait connaître en 2001 avec Putain, une autofiction inspirée de son expérience d'escorte. Au début du livre, Joanne Rigoulot le rappelle, depuis quelques années, Nelly Arcand est une figure dont s'emparent les autrices, Camille Laurence, Ovidie, Louise Chenevière ou encore la chanteuse Pomme. Alors qu'en est-il de ce roman-ci ? C'est à la fois une enquête sur la vie et l'œuvre de Nelly Arcand, un essai sur le féminisme et son histoire, sur la mise en scène médiatique des livres et du personnage Arcand, et enfin c'est une autofiction. Autofiction parce que Joanne Rigoulot met en miroir le vécu de sa mère avec la vie et l'œuvre de Nelly Arcand, alors que l'une et l'autre sont très éloignées évidemment. Autofiction parce que Joanne Rigoulot appartient à la même génération que Nelly Arcand, celle de femmes qui aujourd'hui, je cite, sont des quinquagénaires un peu tapées, et elle écrit « Je la cherche pour me trouver, Patricia ».
C'est un livre qui a du style, qui a de la gueule. Chaque mot, on sent, a été pesé, choisi, percutant. Elle a le sens de la phrase. C'est un livre qui a, je dirais, le culot modeste, parce que comment cerner cette femme sans l'abîmer ? Comment se résoudre aussi, au fond, à ne pas tout comprendre d'elle ? Alors, la biographie, elle ne peut pas l'éviter.
Ce n'est pas non plus une hagiographie.
Ce n'est pas une hagiographie. La biographie, elle est inévitable. Mais tout ce qu'elle dit, justement, sur l'écriture d'Arcand, qui est quelquefois un peu plus réservée, mais on voit quand même que c'est une écriture cache, lumineuse, assez géniale par moment. Mais c'est quand même une femme qui, au sens presque, comme on le dit en alpinisme, qui a ouvert la voie, qui est arrivée à des sommets. Et plutôt que de nommer, d'ailleurs, les crétins, et sont tous des hommes, je suis désolée, mais qui l'ont interviewée, je voudrais tirer mon chapeau à Bertrand Visage, parce que ça a été son éditeur.
Son éditeur au seuil.
Et ça n'a pas dû être simple non plus d'être son éditeur, mais c'est lui qui y est allé, là aussi, le premier.
Arnaud.
Moi, je l'ai dévoré d'une traite, parfois avec des petits cris de douleur, notamment quand, page 113... J'ai vu que Jean Genet était écrit avec un accent circonflexe comme les plantes.
Pas de son fait à elle.
Vous riez, mais en fait, ça m'a fait froid dans le dos. Je me suis dit, comment on peut en arriver là, avec tous les moyens qu'on connaît, je veux dire, les multiples relectures, etc. Comment c'est possible ? Donc, mais passons. J'ai dévoré, absolument dévoré ce livre.
Parce que justement, on peut vraiment entrer dans ce livre sans connaître Nelly Arcand.
Absolument.
Sans l'avoir lu.
J'ai appris, alors évidemment, quelque chose m'a touché personnellement, c'est ce lien très fort qu'elle a avec la psychanalyse, puisqu'elle fait sa maîtrise, son master, comme on dirait aujourd'hui, sur le célèbre cas du président Schreber, évidemment son psychanalyste. Mais alors, quand on lit Putain, elle l'appelle l'homme de sa vie. Hein, celui qui, précisément, elle ne viendra jamais la voir, hein, ne sera jamais son client, mais qu'elle, elle paye pour qu'il l'entende. Vous voyez, alors ça, c'est magnifique. Et quand elle est internée en France, qu'est-ce qu'elle veut comme lecture ? Les 10 tomes du séminaire de Jacques Lacan, vous imaginez, quoi. Donc, il y a ce lien-là très fort. Et en fait, on voit que son livre, Putain, est une véritable auto-analyse, en réalité. Hein, et alors, évidemment, moi, je voudrais juste terminer là-dessus pour pas être trop long. Mais il y a quelque chose qui est frappant aussi dans ce livre et qui doit nous interroger. C'est cette espèce, quand même, de mépris que nous avons pour les Québécois, et l'avance qu'ils ont sur nous, sur ces sujets-là. Hein, c'est nous les ringards, et c'est nous qui traitons les Québécois de ringards. Voilà ce que je voulais dire.
Mais d'ailleurs, tout ce travail sur la mise en scène de la publication Putain en 2001, et tu parlais de psychanalyse, mais il y a un motif de la blondeur, où dans ce livre, elle relie la blondeur d'Nelly Arcand, la blondeur de la Schtroumpfette, celle de Barbie et celle de Tippi Hedren dans Les Oiseaux. Pour terminer, Elisabeth.
Oui, bah moi, ça ne m'a pas totalement convaincue. Je trouve qu'elle les tresse mal, tous ces fils. Il y a trop de choses et en fait, elle ne va jamais en profondeur. Rien n'est vraiment développé. Elle ne parvient pas, je trouve, à redonner chair à Nelly Arcand. Pour moi, cette écrivaine reste un peu fantomatique dans le livre, contrairement à celui de Louise Chenevière pour Britney, qui, il me semble, parvenait bien davantage à nous faire ressentir la force, la puissance du personnage Nelly Arcand et aussi de son écriture. Ce qui m'intéresse, en revanche, et je regrette qu'elle ne l'ait pas développé, c'est ce que tu disais au tout début, à savoir que toute une jeune génération s'empare de la figure de Nelly Arcand. Et ça, c'est une chose très intéressante qui a provoqué MeToo, c'est la redécouverte d'énormément d'autrices qu'on a oubliées ou qu'on a relégué. Je pense donc à Nelly Arcand, mais par exemple à Mireille Havet aussi, qui était citée en exergue notamment du livre d'Esther Teilhard, une jeune écrivaine qui a publié Carne très récemment, ou encore même Marguerite Porrette, une poétesse du Moyen-Âge. Donc ça nous permet de redécouvrir énormément de figures féminines de la littérature, et ça c'est très important. Et j'aimerais qu'il y ait une réflexion plus poussée sur un ou l'autre de ces points-là. Elle effleure tous ces aspects, je trouve que c'est un peu dommage.
Mais il y a une réflexion sur le contexte, je trouve. Jean-Marc,
pas sûr que ça ait été lu 1000 fois, en tout cas pas par tout le monde. Personnellement, il y a des choses que je n'ai pas lues et je pense que c'est parce que je suis un homme.
Et non, moi aussi, il y avait des choses que je n'avais pas lues et je crois que je suis une femme.
Il y a dans ce livre deux citations qui m'ont vraiment marqué. La première, c'est l'arrivée de Marguerite Yourcenar à l'Académie française et la réaction des académiciens à l'époque. Pierre Gaxot compare l'arrivée de Marguerite Yourcenar à l'Académie française à celle d'un nègre. Maurice Druon craint que les séances de l'Académie se transforment en séances tricot. Et Claude Lévi-Strauss, je ne m'attendais pas ça de lui, dit qu'on va injecter un corps étranger dans l'Académie française. Ce n'est pas si vieux.
Non, et là-dessus, tu avais l'excellent livre de Christophe Bigot, paru à la rentrée, qui en parle très très bien de cette réception à l'Académie française.
Et ensuite, elle parle de la quatrième vague du féminisme avec la question du vocabulaire, en disant depuis 5-6 ans, il y a des nouveaux mots qui sont entrés dans la discussion, qui sont les mots de consentement, d'emprise, de harcèlement de rue, de zone grise, de féminicide, qui mettent des paroles sur des choses qu'on taisait auparavant. Quand je lis un livre comme ça, je m'aperçois qu'il y a des questions que je ne me pose strictement jamais. Je ne me pose pas les questions qu'elle se pose au travail quand elle dit « on me voit comme quelqu'un qui spontanément peut être à quatre pattes ». Quand Nelly Arcand a son rendez-vous avec son éditeur du Seuil qui a pris l'avion pour traverser la Manche qui l'attend dans un bar d'hôtel, il a face à lui une femme qui n'a pas l'air d'une écrivaine. Parce qu'elle est blonde. Qu'est-ce que c'est en fait ? Un homme dont on dirait il n'a pas l'air d'un écrivain qu'il est face à moi. C'est des questions que les hommes ne se posent jamais. Et je pense que c'est pour ça que ce livre est important. Ou en tout cas, et également parce que je ne suis pas une femme.
La vie continuée de Nelly Arcand de Johan Rigoulot est publiée par les éditions Les Avrils. Français sans peur, chrétien sans reproche, telle est la devise du collège Stanislas, que Simon Liberati met en exergue, non sans humour, de son nouveau roman. Stanislas, c'est le titre de ce livre, est le premier volet d'une trilogie autobiographique annoncée. Simon Liberati passe 12 ans dans cet établissement privé, entre 1965 et 1977, 12 années qui ont finalement façonné un garçon adepte des drogues et de l'alcool, puis un jeune adulte proche de la devise punk, No Future. Stanislas est le récit d'une double vie, le bonheur familial et amical de ses parents, où Simon est mon chéri, versus l'enfer de l'institution où on l'appelle Liboche, victime de ce qu'on n'appelait pas encore le harcèlement scolaire. Après avoir consacré des romans hantés par les destins tragiques de Jane Mansfield ou Sharon Tate, Simon Liberati continue d'explorer les années 60, mais les siennes cette fois, moins flamboyantes, moins dramatiques aussi, qui ont fait l'homme et surtout le lecteur et l'écrivain qu'il est aujourd'hui. De la sacristie au vieux sacripant, il y a une vie, la mienne, écrit-il. Elisabeth.
Alors, à celles et ceux qui pourraient penser que Stanislas, c'est un pamphlet qui vient étriller, une fois de plus, l'institution qui a été épinglée récemment, accusée de dérives sexistes, homophobes et autoritaires, ben, il n'en est rien. Il parle de cet établissement comme d'un bagne. Moi, je ne comprends pas bien où se situe sa souffrance, en fait. Est-ce peut-être par pudeur, peut-être qu'il n'arrive pas à mettre les mots sur ce qu'il a vécu, mais il y a une scène, vraiment, qu'il décrit et qu'il considère comme un trauma, et je veux bien le croire, c'est quand il est petit garçon et il y a d'autres élèves qui baissent son bermuda et donc ses fesses sont exposées aux yeux de tous. Mais je ne vois pas bien où est sa souffrance.
À ce moment-là, il parle d'ailleurs d'un attentat.
Il parle d'un attentat et je trouve qu'il s'apitoie beaucoup sur lui, s'apitoie beaucoup moins quand il parle d'amis qu'il se fait un peu plus tard, dont il apprend qu'ils ont tous été violés par leur père. Et là, il enchaîne très vite en disant, malgré la bizarrerie de cette famille, ben, je ne sais pas, moi, c'est un peu plus que de la bizarrerie. Bon, il faut le reconnaître, moi, j'aime beaucoup, malgré tout, l'écriture de Simon Liberati, qui est un esthète, un dandy. Ça se retrouve dans sa prose, qui est nourrie de références. De références, si possible, anti-modernes, hein, Morand, Chardonne, voire franchement provocantes, provocatrices, comme Tony Duvert, écrivain notoirement pédophile.
Il y a le Maurras de Pierre Boutan.
Absolument.
Alors là, le Maurras de Pierre Boutan, il faut aller le chercher.
Oui,
hein.
oui. Bon, il y a un côté... Je ne comprends pas, en fait, ce qu'il veut nous dire dans ce livre. Quel est son point de vue sur Stanislas? Quel est le point de vue sur son enfance? Il oscille constamment entre l'éducation, enfin l'enseignement qu'il reçoit à Stanislas et l'éducation bien plus importante, bien plus précieuse qu'il reçoit dans le cercle familial avec son père qui lui lit Dickens le soir, le cercle d'amis aussi plus excentriques les uns que les autres de ses parents, qu'il appelle d'ailleurs le cercle des personnages de Dickens, qui ont tous des allures
sa
de...
Mère.
Sa mère, qui est danseuse au Folies Bergères. Au bout d'un moment, il y a quelque chose d'un peu systématique. Donc, on passe de Stanislas à sa famille. On passe des valeurs de Stanislas à celles qui sont les siennes à lui. Bon, je trouve que c'est un peu vain, un peu égotiste.
Arnaud.
Ça aurait été mieux pour lui s'il avait été scolarisé à Bétarame. Ouh la vache, ça aurait été énorme comme succès. Enfin bon, Stanislas, déjà, il y a un dossier quand même qui est assez sérieux. Hein. Stanislas, je ne suis pas d'accord avec toi, Elisabeth, c'est qu'il dit quand même tout de suite, hein, donc il y était il y a 50 ans, un demi-siècle, il parle quand même de la création du GUD
oui,
au sein de l'école. C'est quand même pas rien. Moi, j'ai appris cette information. Il le dit d'ailleurs, et je le crois très volontiers, en dépit des références littéraires de droite qu'il a, hein, où il va très loin, Jacques Chardonne, Paul Morand, évidemment, lui aussi est atteint donc, du symptôme de Proust, Proust qui a préfacé Paul Morand quand même, rappelons-le, là, il y a une histoire littéraire française très importante dans laquelle il s'inscrit. Pour moi, Liberati, c'est le meilleur écrivain de droite aujourd'hui, qui n'est pas tombé en plus dans cette espèce d'arnaque des néo-hussards, contrairement à tous les autres. Et ce livre est beau parce qu'on voit passer l'époque. À un moment, il cite le texte d'un aumônier, je ne sais plus, qui analyse les événements de mai 68 en disant ça a été une bonne chose pour notre jeunesse. Il parle de cette jeunesse, donc de Stanislas. Hein. Voilà, je trouve que c'est un beau livre. Le problème, c'est qu'il se regarde maintenant écrire devant la postérité. Il est là, ceux qui me liront dans le futur. Du calme, Simon.
Jean-Marc Proust. Décidément, patronyme.
Je comprends pas ce qu'ils ont tous à se mesurer à Proust. Quoi. C'est vraiment un combat perdu d'avance.
Ouais.
Mais bon, qui continue. Hein. Moi, je m'attendais pas à grand-chose. J'ai pas été déçu. C'est un livre qui est moyen, mais vraiment de bout en bout. Et c'est très difficile de dire quelque chose sur un livre moyen. Il y a presque rien à raconter. Tout est plat. Il y a une sorte de faux jeu avec la mémoire, une sorte de coquetterie de... voilà, c'est une nouvelle de Maupassant dont j'ai oublié le titre, quelques lignes plus loin. Ah, voici le titre. En 67-68, j'avais Mademoiselle Colette comme maîtresse à l'école. Ah non, c'était en 68-69, parce qu'en 67-68, c'était Mademoiselle de Molon, dont je n'ai gardé aucun souvenir. Donc il y a cette coquetterie permanente, et puis après, il nous livre des informations essentielles. Quand je prenais l'autocar, j'avais mal au cœur. Ma chienne est morte dans les années 80. J'appelle mes grands-parents, papy et mamie. Enfin, on est à ce niveau-là, il nous dit qu'il va acheter un disque de David Bowie à la Fnac Montparnasse. Enfin, si le bouquin, enfin, c'est une trilogie. S'il avait commencé plus tôt, on avait toute la discographie de Dorothée de Chantal Goya. C'est très moyen et il n'y a rien à en dire.
Patricia ?
Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et c'est-à-dire, d'abord, bien pire que Stanislas. Tu te dis qu'il a Stanislas, c'est le titre de son livre, parce que peut-être ça va accrocher le lecteur, mais bien pire que Stanislas, il y a la boîte à bagues dont il est l'élève par la suite. Bon, il a souffert, c'est lui seul qui peut savoir quel degré sa souffrance a eu. En fait, c'est un peu faux, parce qu'il n'assume pas vraiment qui il est. Il veut être un paria, ce mec. En même temps, il sait très bien qu'il n'est pas ambitieux et que ce qu'il veut, son ambition, précisément, c'est de devenir célèbre, voilà. Et il a cette phrase, à me relire, je me trouve amer. Alors même si dans la deuxième partie de la phrase, que je n'ai pas notée, il tempère un peu son propos, oui, je trouve que c'est un mec qui, pardon, je suis désolée, qui vieillit mal. Et c'est dommage, parce que qu'est-ce qu'il a dû être craquant. Et on imagine, comme sa mère l'adore, visiblement, et il adore sa mère, elle est toujours vivante, il est craquantissime sur cette photo.
Le livre lui est dédié, d'ailleurs.
Le livre lui est dédié.
À chaque émission, il y a un type que tu trouves craquant.
Oui, c'est vrai. Stanislas,
je vais changer de vocabulaire.
Stanislas de Simon Liberati est publié chez Grasset. Un tour de table pour vos coups de cœur qui viennent compléter ce programme. Arnaud.
À pied d'œuvre de Franck Courtès, un livre qui était sorti en grand format il y a 2 ou 3 ans. Franck Courtès était photographe et il gagnait très bien sa vie. Puis il a décidé de devenir écrivain. Alors, ça a assez bien marché pour lui. Il a fait la grande librairie, tout ça. Enfin, il a sombré dans la misère, tout publié par Gallimard qu'il est. Et il a vendu sa force de travail sur des plateformes numérisées, ubérisées, hein, en fait. Et donc, il nous raconte cet esclavage moderne. Et Franck Courtès le raconte, lui. Alors, il le raconte vraiment en écrivain, avec une espèce de grâce. Et en fait, l'univers du travail a quasiment disparu de la littérature française contemporaine. Et donc, ça fait plaisir que quelqu'un parle du travail et de cet esclavage moderne qui s'organise. Voilà, Franck Courtès, à pied d'œuvre, en folio.
Et je me permets d'ajouter que vous pouvez éventuellement écouter son portrait aussi dans Totémique. Elisabeth.
Mon coup de cœur, ça s'appelle « Chemoule, un chat français » de Nathalie Quintane.
Que tu as choisi juste pour son titre, déjà.
Oui, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Le titre mérite à lui seul un coup de cœur. Il y a des dessins aussi de Stephen Loy et ça paraît chez POL. Alors, « Chemoule » raconte à la première personne sa vie de chat. Donc, il la raconte par le menu, les siestes devant le feu, les siestes dans un lit ou les siestes au soleil dans le jardin. Et « Chemoule » donc se pose des questions existentielles comme « Est-ce que
Évidemment.
Ça vaut le coup de se réveiller ? Est-ce que ça vaut le coup de sortir ?» Mais surtout, Nathalie Quintane, je trouve, elle invente une langue, une écriture qui permet de restituer le quotidien d'un chat, donc une langue de chat finalement, pour raconter l'exploration dans le jardin, la chasse à la mouche, les étirements des coussinets, et c'est drôle, doux, poétique, mordant et un peu anard, exactement comme un chat, et ça s'appelle donc Chemoule, un chat français, franchement est-ce qu'on a fait mieux, Nathalie Quintane avec des dessins de Stephen Loy chez POL.
Patricia.
Alors moi, c'est pour 2 conseils pour le prix d'un, rapidement, oui. Primo Levi, si c'est un homme, évidemment un texte archi connu et archi traduit, paru en 1947, qui ressort là dans la collection Pavillon à l'occasion des 20 ans de la collection chez Robert Laffont en brochet avec une préface de Philippe Claudel. On connaît ce texte, c'est une mise en garde et un signal d'alarme et je trouve que ça va bien au-delà d'une expérience individuelle. Et un autre texte, alors là je suis désolée Arnaud, tu as le droit de faire tous les commentaires que tu veux, Louer soit la lecture aux Équateurs, et tu sais qu'il a signé le pape François, feu le
ah
pape.
Oui, oui, bien sûr.
C'est un texte non, destiné.
Le Primo Levi, tu n'as pas signalé qu'il y a la formidable interview de Primo Levi par Philippe Ross
en postface. Oui, non mais franchement, c'est formidable. C'est
génial.
À lire ou à relire. Et très bien aussi, Louer soit la lecture sur l'importance justement primordiale de la lecture, la plénitude de l'expression où la vie prend conscience d'elle-même. C'est aux éditions des Équateurs, avec une préface de William Marx, qui est professeur au Collège de France.
Pour ce qui me concerne, j'ai choisi Paul, la résurrection. Mais je te donne la parole après, ne t'inquiète pas Jean-Marc, je ne t'ai pas oublié. Pour ce qui me concerne, j'ai choisi Paul, la résurrection de James Paul McCartney, résurrection dans laquelle le Seigneur n'est pas intervenu. C'est donc une bande dessinée d'Hervé Bourris. Donc Hervé Bourris, donc, qui est notamment fan des Beatles, à qui il a déjà consacré plusieurs livres. Et dans celui-ci, Hervé Bourris Maurice raconte la vie de Paul McCartney précisément entre 1969 et 1973. C'est donc l'histoire d'une chute qui est liée au traumatisme et à toutes les trahisons qui vont avec la séparation des Beatles. Et c'est aussi l'histoire d'une renaissance artistique de Paul McCartney. Alors, il ne m'a pas échappé que beaucoup d'ouvrages ont déjà paru sur les Beatles, mais là, il s'avère que j'ai encore appris des choses. Et puis surtout, il y a le dessin d'Hervé Bourris qui sort des cases, qui s'inspire de toute l'iconographie psychédélique. Et c'est un garçon peut-être le meilleur pour faire les caricatures des grandes figures de la pop. Donc, et j'ajoute que c'est un livre à deux voix, avec la voix de Paul McCartney et avec la voix de sa femme Linda, qui était traitée sur le mur de leur maison de Cavendish Avenue, Linda la salope. Et elle joue un rôle très important dans la renaissance de Paul McCartney. Paul, la résurrection de Paul McCartney, 1969-1973. C'est donc signé Hervé Bourris et c'est publié chez Casterman. À toi, Jean-Marc.
Merci. Une petite parenthèse réactionnaire, si vous me permettez. La comtesse de Ségur. Et en l'occurrence, moi, j'avais totalement occulté le fait que la comtesse de Ségur avait un mari. Et le livre s'appelle « Le mari de la comtesse de Ségur » d'Afid Agoun aux éditions Reconnaissance. Et ça raconte l'histoire du mari de la comtesse de Ségur, qui est un aristocrate déchu, pauvre, qui finit à force d'intrigue par devenir pair de France. Et un jour, sous l'Empire, on lui confie la compagnie française des chemins de fer de l'Est, Paris-Strasbourg et toutes les autres lignes. Et entre-temps, il est devenu ami avec Louis Hachette, qui a une idée de vendre des livres dans les gares. Et c'est ce que raconte ce livre à la première personne. C'est le comte de Ségur qui se raconte lui-même, Eugène de Ségur, Marie Volage, ne s'occupe pas de ses enfants. La vérité historique en prend peut-être un petit coup, mais il y a quand même l'idée de, parce que c'est très difficile de vendre des livres, il y a des histoires de monopole dans les librairies et le colportage, Louis Hachette veut des auteurs maison. Le comte de Ségur lui propose son épouse. Naissance de la Bibliothèque Rose, immense succès parce que les enfants sont déjà insupportables dans les trains à l'époque et qu'il faut les occuper. Le mari de la comtesse de Ségur, Afid Agoun, aux éditions Reconnaissance. Et Arnaud va pas être content parce que c'est un joli livre.
Jean-Marc Proust, Arnaud Vivian, Patricia Martin, Elisabeth Philippe, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque et la Plume. La semaine prochaine, on se retrouve au Théâtre de l'Alliance Française, même heure et presque même motif, puisque nous débattrons de l'actualité du cinéma. Stéphane Combe et Guillaume Giraud ont réalisé cet épisode du Masque avec Patrick Muller, Clara Gallivel, Stéphane Touvenin et Leslie Horowitz. Aujourd'hui, merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation et la préparation de l'émission avec Nina Malray. Ma bande et moi vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur France Inter, évidemment.